Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Je veux juste, vous me permettrez d'avoir une petite pensée pour 127 personnes dont on vous a parlé hier. 127 noms, on les a tous nommés hier. L'abbé Claude Paradis était avec nous, on a parlé de ces gens. Qui sont-ils? Si vous avez manqué l'émission, je vous conseille, je vous encourage fortement à aller réécouter l'entrevue qu'on a faite hier. Il y avait également la dame de la FADOC qui était là, Lynn Rémillard. On parlait de 127 corps qui avaient été non réclamés. Des gens qui ont une vie, mais qui se sont complètement éteints dans l'anonymat le plus total. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui à 11h? Parce qu'hier, on s'en est parlé. Mais en ce moment même, débute la cérémonie, le dernier hommage que l'abbé Paradis organise au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise pour ces 127 personnes qui méritent mieux que d'être enterrées tout seules dans la misère de l'anonymat. Des vies effacées, c'est assez épouvantable. Vous avez été très nombreux à m'écrire là-dessus, à me dire que vous avez été touchés par ça. Et je vous en remercie. Puis c'est vrai que ça devrait toucher notre humanité. Ça devrait tous nous avoir fait un peu pleurer. Ça devrait tous au moins nous avoir mis les larmes aux yeux parce que c'est, ça n'a juste pas de bon sens. Il y a des gens qui m'ont même écrit pour me dire, mon Dieu, j'ai un parent, un proche que je cherche depuis des années, je suis sans nouvelles depuis quelques mois ou depuis... qu'est-ce que je peux faire? Il y a aussi, des fois, c'est pas de la mauvaise volonté là, qui fait qu'on a perdu les liens familiaux. Il y a des gens aussi qui m'ont écrit pour me dire, moi, là, mettez-vous moi à ma place. C'est quasiment qui crève, là, tout seul, il mérite pas mieux que ça parce qu'il n'a pas été une bonne personne. Tout le monde a son histoire familiale, puis je veux pas la juger, puis sans doute que vous avez des raisons d'avoir coupé les ponts avec vos parents ou vos proches. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en général, on est des bonnes personnes, puis qu'on ne mérite pas personne de mourir seul dans un trou sans autre cérémonie. Alors, je voulais juste rappeler à votre mémoire, à notre mémoire à tous, qu'en ce moment même, un curé, petit curé qui se démène tout seul avec les sans-abri, qui fait vraiment ça avec l'aide de bénévoles, qui est en train de rendre hommage à 127 humains qui ont une vie mouvementée. On va justement parler de ces vies mouvementées parce que, je ne sais pas, dans votre environnement à vous, moi j'ai plusieurs personnes que je connais ou des gens qui me racontent leurs histoires. Il y a beaucoup de monde qui se sépare en ce moment. Je ne sais pas si c'est l'automne qui fait ça. C'est comme un moment où, peut-être après l'été, on se rend compte que ben là, la rentrée fait en sorte qu'il y a des affaires qu'on ne veut plus. Puis des fois, c'est ton couple que tu ne veux plus. Tu l'as traîné comme un boulet pendant des années, puis là, il pète pour toutes sortes de raisons. Et là, on va parler de la difficulté de se séparer, de gérer une séparation, surtout quand il y a des enfants, sans s'arracher le cœur, puis sans vouloir sauter à la face de l'autre, puis d'y pomper tout son argent. On a pensé tout de suite à l'avocat et médiateur familial Jean-François Chabot. Merci Jean-François d'être avec nous.
Bonjour Isabelle.
Avez-vous ça dans votre entourage, Jean-François, en ce moment, du monde qui se sépare? Y a-t-il comme un climax, là? Une tornade dans les couples?
Oui, c'est assez actif de ce temps-ci. C'est oui. Assez actif. Là, il y a des périodes durant l'année, évidemment, où les gens font, je pense, ils font des changements, ils font des bilans. Et on disait que, même j'entendais quelque part qu'il y a plus de... En fait, on fait des résolutions hein, au Nouvel An.
Oui.
Et apparemment, qu'il y aurait plus d'une résolution en septembre à la rentrée qu'il y en a même au Nouvel An.
Oui.
Donc, peut-être que ça fait partie des résolutions que les gens se font, c'est-à-dire, ben, je veux changer quelque chose dans ma vie, je veux améliorer certaines parties. Évidemment que, je pense bien que quand on annonce une séparation, la personne qui l'annonce dit, ben, moi, je vais obtenir un changement positif dans ma vie suite à ça, même si l'annonce est quand même très difficile à faire. Et pour la personne qui reçoit, ben, bien évidemment, c'est souvent un choc.
Comment gérer une séparation de couple sans s'arracher le cœur, Jean-François?
Oui. Je pense que pour le faire, il faut un, ça prend beaucoup d'écoute. Mais malheureusement, c'est ce qui manque le plus dans nos couples d'aujourd'hui. Hein?
Donc, puis quand on sépare, c'est ça qui manque vraiment le plus.
Oui, oui. Mais je pense que lorsqu'on entend l'annonce de la séparation, tout de suite, on doit dire, ben, OK, je ne suis peut-être pas prêt à l'entendre au complet. Peux-tu m'en donner un bout et aller chercher de l'aide? Mais ce qui est super important de faire, c'est de débuter le processus d'acceptation, de séparation. Les pires dossiers que j'ai dans mon bureau sont ceux qui ont traîné pendant des mois. Donc, des gens qui disent, ben, ça fait depuis le mois de septembre dernier ou puis le mois de novembre dernier qu'on dit qu'on se sépare, mais qu'on ne se sépare pas. Et tous les jours, ça devient une pression incroyable à soutenir. Donc, à chaque jour, ils se lèvent et ils pensent, ben, mais c'est aujourd'hui que ça va se passer, c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Ils se sont annoncé des choses, n'ont rien mis en action. Et là, ça finit par grenouiller. Puis Évidemment, comme on dit, hein, tout ce qui traîne se salit. Et quand ça arrive dans mon bureau, après pratiquement une année de guerre froide à la maison, de côté gauche, côté droit du frigo, c'est beaucoup plus difficile à dénouer comme situation.
Et quand vous avez devant vous là, ces couples-là, c'est qu'ils ont quand même déjà fait le... Ils sont un peu parlés parce qu'ils ont fait le choix d'aller vous voir comme médiateur ou vous agissez surtout comme avocat qui va régler l'équité puis dire, bon, la table, monsieur prend la table, madame prend le sofa. Comment ça marche, en fait?
Bien, souvent, en fait, les gens ont l'impression d'avoir réglé des choses, mais ils n'ont absolument rien réglé.
Ouais.
Ou parfois, ils ont réglé des choses, mais contrairement aux droits qui leur sont octroyés. Donc, dans plusieurs cas, on parle de gens qui sont conjoints de fait et qui prennent des décisions très, très rapidement. Donc, une chose à ne pas faire, c'est prendre des décisions rapides. Donc, d'aller chercher avis et conseils, de prendre le temps d'en discuter et ensuite, vous déciderez ce que vous voulez faire ensemble. Ça, je pense que c'est une des meilleures façons de le faire.
Mais une décision rapide, ça voudrait dire quoi, par exemple? Parce que combien de... Tu sais, ton chum ou ta blonde t'annonce, bon, ben, regarde... Puis des fois, on... Justement parce qu'il y a des non-dits puis qu'on traîne des situations, la journée où ça sort d'une traite puis c'est souvent comme un camion 10 roues que tu reçois en pleine face. Et que là, l'autre, comment il le reçoit? Il va dire, bon, regarde, moi, il n'y a pas question que je reste une minute de plus dans cette maison-là. Je déménage, garde le condo, je vais prendre un logement ailleurs. C'est souvent ça qui se passe.
Exactement. Et là, on a des impacts parce que c'est bon, on dit, bon, garde le condo. Hein, garde le condo, pourquoi? Garde le condo jusqu'à temps qu'on règle nos conséquences financières et que tu me donnes 50 % de l'équité. Ou garde le condo parce qu'on vient de se signer un papier sur le coin de la table comme conjoint de fait, comme de quoi je te cède ma partie indivise du condo. Et deviens-en propriétaire, on ira chez le notaire, je te transfère ça pour une pièce. Oups, attends un petit peu là. Il peut y avoir des conséquences juridiques. Il y en a d'autres que c'est le contraire, dire ben d'accord, chacun reprend ses choses, on n'a rien à partager, mais on est mariés. Ah ben gardons. C'est pas la façon que ça fonctionne. Donc, c'est des décisions impulsives. Les dossiers les plus complexes sont souvent les gens qui arrivent dans mon bureau et me disent ben nous, on a tout réglé.
Puis
ceux qui ont tout
non.
réglé, ouais. Malheureusement, quand je commence à creuser un peu dans le dossier, essayer de comprendre la situation, qu'est-ce qui s'est passé, les droits de chacun, les obligations de chacun, ben finalement, je réalise que c'est des décisions ou c'est des décisions qu'ils ne peuvent pas prendre. C'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, la classique, là, si on s'est arrangé, il n'y aura pas de pension alimentaire de l'un à l'autre, madame va garder toutes les allocations. Ah, ça, c'est un classique. Bien, ça se peut pas, ça. On ne peut pas faire ça.
Uh-huh.
Donc, si on se sépare, on a une garde partagée, chacun va recevoir ses allocations. Et la pension, bien, il faut en parler, à savoir, bien, les obligations alimentaires envers les enfants. Donc, les gens font des petits arrangements comme ça avant d'arriver dans mon bureau. Malheureusement, il faut que je défasse un peu leurs ententes.
Mais il y a des fausses perceptions, il y a des idées complètement erronées contre un bal. Par exemple, le fait de penser qu'être conjoint de fait, c'est la même chose qu'être marié.
Ah oui, c'est un classique.
C'est juste que tu as moins de troubles, genre, quand
ouais.
tu veux te séparer. Les gens pensent ça.
Oui, il y en a plusieurs qui pensent ça. Ils disent, bien, ça fait quand même 3 ans qu'on habite ensemble. Il me semble que c'est 3 ans. Quand on habite ensemble depuis 3 ans, on devient comme l'équivalent de marié, non? Ben non, effectivement, ouais. ça n'arrive pas.
Ça.
On demeure
ça
toujours conjoint.
Ça vient d'où cette affaire-là, 3 ans?
Je ne sais pas
là.
C'est quoi. C'est un mythe, une croyance populaire, mais ce n'est pas le cas. Conjoint de fait, vous êtes en affaires ensemble. On peut résumer à ça, à cette affaire-là. C'est que vous êtes en affaires. Vous avez une maison dont vous êtes seul et unique propriétaire ou encore copropriétaire. Vous avez des meubles qui vous appartiennent à chacun de vous. Donc, j'ai acheté une table, une chaise, c'est à moi dans la maison. Elle a acheté un frigo, ben c'est à elle dans la maison. Si on se sépare, la facture est au nom de tel ou tel conjoint, mais c'est lui ou elle qui va repartir avec. C'est ça, des conjoints de fait.
Fait qu'il faut faire vraiment attention parce qu'il y a bien des gens qui... des fois, les gens m'écrivent, me disent... Oui, Isabelle, c'est-tu correct, ça? Mon mari paye la maison. Mon mari, c'est-à-dire mon conjoint paye la maison, c'est ça. Mon conjoint paye la maison. Moi, je paye l'épicerie. Puis j'ai comme un petit doute. Puis souvent, je réponds, oui, vous avez raison d'avoir un doute parce que... faites-vous des papiers comme quoi vous avez la moitié de la maison, mais au moment de la séparation, un conjoint de fait qui serait propriétaire unique, il n'est pas obligé de donner la moitié à sa conjointe après 3 ans, 2 ans, 1 an,
pas
10 ans. Là.
Au sens strict, non. Ensuite, bon, quand on fait appel aux tribunaux, évidemment qu'on peut toujours plaider à gauche, à droite pour essayer d'obtenir quelque chose.
Mais au tribunal,
faut s'y rendre au tribunal. Il faut aller demander quelque chose et c'est loin d'être évident. Il n'y a pas aucun avocat qui va vous dire oui, effectivement, c'est juste en claquant des doigts qu'on va l'obtenir. Non, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va l'obtenir. Donc, c'est important de faire les efforts nécessaires. Là,
fait pour, qu'on pourrait l'obtenir en convaincant un juge que, regardez, c'est parce que ça fait 10 ans qu'on est conjoint de fait, qu'on est ensemble dans cette maison-là, on a 2 enfants, c'est clair que la moitié de la maison me revient. Un juge pourrait décider que c'est vrai.
Il y a une certaine ouverture. Il y a une certaine ouverture, je veux dire que c'est loin d'être
mais on prend un risque.
La coupe aux lèvres. Là, on est loin de la coupe aux lèvres, mais on prend un risque. Mieux vaut bien encadrer notre relation dès le départ et si jamais on a des choses à régler à la séparation, de les mettre sur la table. Plusieurs personnes viennent en bonne foi dans mon bureau, bien évidemment, on va séparer comme on a vécu. Hein? Évidemment que si on a tout mélangé, on avait un compte conjoint, c'est là, de là on a mis tous nos revenus, on a payé l'électricité, on a payé l'épicerie, on a payé la maison. Mais plusieurs vont dire ben, finalement, on va partager aussi tout équitablement puisqu'on a fait un pool et on a vécu un joint venture. Donc, ouais. Une aventure en affaires avec un compte
Est-ce que vous
commun.
Voyez ça souvent? Parce que des fois, je fais des émissions à savoir, est-ce que vous êtes en compte conjoint ou compte séparé? Puis je me rends compte que les gens, ils ont un petit compte conjoint, pas très rempli, vraiment juste là, pour les entrées et les sorties des dépenses usuelles. Mais chacun a quand même son compte en banque, ce qui veut dire que les choses sont relativement séparées. Là.
Oui, étonnamment, j'ai quand même plusieurs couples qui ont un seul compte et c'est ouais. Le compte conjoint.
Okay.
Toujours surpris. Mais on doit dire, c'est peut-être des gens dans les années 1990, là, donc les unions des années 90.
Ouais. Ouais. Évidemment, bon, il y a Yves qui me dit qu'il faudrait penser aux enfants avant tout. Le côté financier, ça devrait être au second plan. Il va pas tard. En même temps, est-ce que l'argent devient pas, c'est sûr que c'est un sujet important, il faut le régler, mais est-ce que ça devient pas aussi un outil de manipulation? Puis de...
Totalement d'accord avec Yves, il faut mettre les enfants en avant-plan. Mm. Mais comme on fait ici en médiation, ou mon approche en médiation, c'est de dire, oui, je peux bien parler de la garde des enfants, mais s'ils n'ont pas de toi, que vais-je faire?
Ouais.
Okay? Donc, restabiliser les deux parents me permet par la suite d'avoir un mode de garde qui va être acceptable pour les deux et ça ne sera pas seulement qu'un tiraillement de l'un envers l'autre pour payer ou ne pas payer, avoir des frais ou ne pas avoir des frais relativement aux enfants. Si les deux parents sont stables, habituellement, ça va être plus facile d'en obtenir une entente avec les enfants.
Mais justement, j'ai une question, entre autres, là-dessus d'un auditeur qui, bon, quand il y a des enfants, que les gens sont conjoints de fait, on va surtout parler de conjoints de fait parce que c'est ça la majorité des couples au Québec. Là. Les gens, il y en a quelques-uns qui se marient encore. Là. Le mariage est encore... prisé, mais pas mal moins qu'à une certaine époque. Les gens préfèrent se mettre conjoint de fait. Quand il y a des enfants dans une organisation comme ça, dans un couple, qu'on se sépare, la maison familiale, est-ce que c'est considéré ça comme si on était marié, c'est-à-dire on va s'assurer que les enfants ne soient pas déracinés de leur maison, on va dire à un des parents, ben, c'est toi qui restes là. Ou... Est-ce que les parents sont... Comment
si.
Ça marche?
Il n'y en a pas de comme si.
C'est pas comme
les
si, non.
Les gens
hein?
sont des propriétaires d'immeubles. Ils possèdent une maison ensemble.
Même quand on a des enfants.
Même quand on a des enfants, le code ne vient pas accorder une protection, contrairement aux gens mariés. Aux gens mariés, on a une protection familiale et, dans le cas, si on fait le parallèle, je suis marié, je pourrais ne pas être propriétaire de la maison, mais puisque c'est moi qui donne principalement les soins aux enfants, le tribunal pourrait m'accorder l'usage exclusif de la maison. Dû au mariage, pas
mais
dû
pas
au fait d'être
conjoint
de fait. Il n'y a pas d'automatisme de cette nature-là en termes de conjoint de fait. Donc, conjoint de fait, c'est vraiment, je suis propriétaire de mon bien, c'est moi qui le possède, c'est moi qui gère, qui passe et qui sort de la porte.
Hey, les gens ont intérêt à s'entendre.
On strict, on a intérêt à s'entendre, bien évidemment. Et à connaître, donc on s'embarque. Parce que c'est correct, c'est une belle relation, la relation de conjoint de fait. C'est la relation dans laquelle vous avez le plus de liberté pour établir vos règles, savoir comment ça va fonctionner pour les revenus, pour les dépenses, pour la copropriété de certains biens ou pas, pour les dettes. Qui peuvent être séparés aussi très facilement. Donc, il y a des belles opportunités pour les gens qui sont conjoints de fait. Mais encore faut-il savoir dans quoi on s'embarque.
Ouais.
La même chose, puis là, on va faire le parallèle avec les gens mariés. Parce que ce que je vois présentement dans mon bureau, c'est des gens qui se sont mariés. Parce que le mariage, on doit se le dire, là, c'est une superbe fête. Hein? C'est une superbe fête. On organise un événement, on rassemble la famille, on fête bon, l'amour de l'époux, de l'épouse, avec des conséquences légales. C'est un party avec des conséquences légales. Vous signez un document par lequel vous ne devez pas être surpris lors de la séparation que 50 % de vos REER, 50 % de votre fonds de pension va disparaître. Vous l'aviez promis au départ. Ça faisait partie du deal initial. Tout ça pour dire qu'en conclusion, là-dessus, c'est de dire que les gens ne sont pas bien informés dans quoi ils s'embarquent.
Fait que ça veut aussi dire que quand on a deux REER, on a intérêt à contribuer en partie au REER de son conjoint marié, de son mari ou de sa femme.
Ben oui.
Parce que dans le fond, la moitié va nous revenir si jamais on se sépare.
Ben oui, les stratégies fiscales sont toujours plus intéressantes à ce moment-là.
Ouais.
Vous pourriez faire la même chose comme conjoint de fait, mais soyez conscient que si vous avez contribué au REER de l'autre, ben, ils sont maintenant à l'autre.
C'est un cadeau.
Ben, c'est un cadeau. Mais ben, c'est correct, vous avez le droit de faire des cadeaux.
Ouais.
Hein,
les cadeaux, on est content quand on est ensemble puis on les regrette quand on n'est plus ensemble.
Oui, mais donner et prendre ne vaut. Hein, que disent les tribunaux, on ne peut pas à la fois donner et redemander
non,
par la
c'est
suite.
Sûr. On a des gens qui nous appellent, qui ont sans doute des questions. Nathalie est avec nous. Bonjour, Nathalie.
Bonjour.
On vous écoute.
J'ai deux questions à vous demander. Moi, oui. Quand je me suis séparée pour la garde des enfants, je suis allée en médiation et l'avocat nous avait dit, parce que le papa ne voulait pas les avoir une fin de semaine sur deux, il voulait les avoir deux semaines par année. Puis l'avocat m'avait dit, madame, monsieur a des droits, mais n'a pas d'obligation. Ça, c'est une chose qu'il m'avait dit. Puis deuxièmement, je voulais savoir, quand on enregistre la résidence familiale, la maison comme résidence familiale, est-ce qu'on peut le faire comme couple marié et comme conjoint de fait?
La dernière question, vous voulez dire, vous, dans votre situation, vous...
On peut enregistrer, on peut faire un enregistrement, on peut dire que la maison est résidence familiale, ça veut dire que normalement, l'autre personne qui est propriétaire ne pourrait pas vendre la maison parce qu'on aurait déclaré la résidence comme résidence familiale.
Mais ce que vient de nous dire Maître Chabot, c'est que dans un cas de... C'est bien ça, Jean-François?
Oui.
Dans un cas de conjoint de fait... En fait, la notion de résidence familiale n'existe pas comme dans le cas d'un couple marié. C'est ce que j'ai compris que vous avez
okay.
dit. Ouais, c'est tout, c'est bien ça. Il est en train de vérifier en même temps qu'on se parle.
Oui, parce que c'est un domaine vraiment de notaire.
Ouais, okay? Tout à fait.
J'aime
ouais,
bien mes
ouais.
amis notaires sur ouais, ces ouais. questions-là. Si Nathalie vous permettez, je vais faire juste la vérification dans quelques secondes, pour pas seulement qu'on aura une pause et puis je vais vous revenir
oui,
après
fait,
la pause
ouais.
avec une réponse
mais
là-dessus.
C'est vrai qu'on a des droits, mais pas d'obligations pour la garde des enfants.
Vous avez tous les deux des obligations et des droits envers les enfants. La difficulté, c'est de les faire valoir. Puis là, je comprends qu'il y a comme un délaissement de la part d'un des deux parents, et malheureusement, ça arrive. Et c'est très difficile, même pour les médiateurs encore plus, parce qu'on ne peut pas imposer des choses, mais même pour le tribunal, d'imposer qu'il y aura une présence parentale. Parce que si on a un désengagement parental, on va se poser la question, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'aller fréquenter ce parent qui ne veut pas s'engager auprès de moi comme enfant, auprès de l'enfant? Donc, c'est ça qui est le questionnement, c'est l'intérêt de l'enfant derrière ça. Mais si on se désengage d'un côté, habituellement, on se fait bien accrocher de l'autre côté. Donc, ce que le tribunal peut faire en parallèle, c'est de dire, ben, parce que monsieur n'exercera pas un temps significatif auprès des enfants, donc au moins un minimum, et ça, c'est, on est en bas du minimum, là, deux jours, d'une fin de semaine par année, là, on pourrait bonifier les obligations alimentaires. Donc, ça veut dire que ça occasionne des difficultés supplémentaires aux parents qui a les enfants à 100%, même 110% du temps. Donc, ce parent-là a besoin de temps pour lui ou pour elle, a besoin d'une gardienne additionnelle, d'un gardien pour s'occuper des enfants. Et la pension alimentaire peut se voir bonifiée de 5, 10, 15% assez facilement. Donc, on voit ça dans les jugements. Mm. Donc, non, on ne peut pas forcer un parent à prendre son enfant, ce qui est malheureux. Ce qui est heureux, c'est qu'il y en a un autre qui va prendre le relais, mais on peut compenser au niveau financier, ce qui parfois va arriver auprès des tribunaux.
Oui, on va s'arrêter ici. Très courte pause. Vos questions, vos commentaires, ce que vous vivez, parce qu'on essaie de voir comment réussir une séparation. Tu sais, des fois, il y a un adage qui dit ça. Si tu n'as pas réussi ton mariage ou ta vie commune, au moins, essaye de réussir ta séparation. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a bien des gens qui sont empêtrés dans toutes sortes de chicanes qui durent parfois des années et qui leur polluent la vie. 514-790-9850. Sans frais, 1-866-790-9850. On parle entre autres de séparation de couple sans s'arracher le cœur et le compte en banque et bon, rapidement au Québec parce que c'est la situation de bien des gens. On parle de conjoint de fait. On a Patrick à qui on va parler tout de suite, mais avant, juste faire le point là, par rapport à la question de Nathalie. Maître Chabot à l'information par rapport au conjoint de fait et la maison familiale, la résidence familiale. Comment ça marche, Jean-François?
Donc, on a fait nos vérifications. Là. Au terme de la résidence familiale, la protection de la résidence familiale, c'est un enregistrement qui est fait, une publication pour déclarer que cette maison-là est résidence familiale, ce qui permet de restreindre le droit à l'hypothèque ou à la vente de cette résidence-là. Donc, ça, c'est un droit qui est quand même réservé aux gens mariés, hein, selon mes informations. Mais, les conjoints de fait pourraient y adhérer. Donc, par le biais d'un contrat de vie commune, évidemment que c'est une chose qu'on vous recommande de faire
ouais.
comme conjoint de fait. On fait un contrat de vie commune dans lequel on dit qu'on s'assujettit à la protection de la résidence familiale et ensuite, on enregistre la protection de la résidence familiale.
Mais si on n'a pas ce
si
contrat,
on a pas fait ça, ben,
il n'y en a pas de concept de résidence familiale. On a, j'ai beaucoup de questions là, sur les conjoints de fait. Je vous le disais tout à l'heure, au Québec, on est bien à côté. Mais on a quand même Patrick qui est marié, mais séparé depuis 4 ans. Patrick, c'est bien ça?
C'est bien ça, exactement.
Pas divorcé?
Pas divorcé, non. On est en bon terme. Donc c'était comme pas une
priorité.
C'était pas pressant. Oui, mm-hmm. c'est ça, exactement. Mais là, il faudrait terminer la chose. Là. Puis, ben, c'est ça, on n'a pas d'enfant. Tout est séparé. Je veux dire, on a chacun nos meubles et tout. On a chacun notre condo. Dans le fond, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment faire le divorce le plus simplement, le plus, dans le fond, un divorce amiable, à l'amiable.
Mon Dieu, facile de même. Ça se fait quasiment par Internet. J'exagère un peu, mais...
Mais malheureusement, on peut en trouver, mais ça vient pas avec le conseil légal.
C'est ça, non, c'est ça.
Ben, je vous invite peut-être à contacter un juriste ou un médiateur familial qui pourrait rédiger l'entente pour vous deux.
Mais donc, ça, c'est facile, ça.
Ça va
il
être
a pas
relativement facile.
S'entendre
ça va
bien.
Demander une première rencontre ouais. Où est-ce qu'on va faire le bilan de la situation, de ce que les gens ont fait. Il faut possiblement que la deuxième rencontre sera la signature de la demande de divorce conjointe, là, avec un frais fixe.
J'ai entendu comme quoi que le notaire, rasteur, pouvait faire ça. Il y avait une loi qui avait passé.
Oui, effectivement. Donc, les notaires et les avocats sont en mesure de vous accompagner là-dedans. Si la demande de divorce est faite pour le motif, c'est d'avoir cessé de cohabiter depuis plus d'une année, les deux professionnels peuvent vous aider là-dedans.
Ouais. Oui. Est-ce que ça a toujours été simple comme ça, Patrick, depuis votre séparation ou au début? Ça...
Non, non, on s'est vraiment séparés en bon terme.
Ah, bon.
Oui, puis on a toujours gardé contact. Je la vois une ou deux fois par année parce qu'on a des amis en commun. Mm-hmm. Fait que quand il y a un party, ben, on est là, puis on jase. Puis, j'ai été chanceux à ce niveau-là. Ça a toujours été facile.
Bon, ben tant mieux. Il y en a à qui ça arrive. Tant mieux, heureusement. Merci, Patrick. Bonjour, Martin.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Bon, moi, j'envie la relation de votre
de Patrick, oui.
Donc, écoutez, moi, de mon côté, séparation là, depuis quelques années. Au moment où nous étions un couple, donc conjoint de fait, nous avions deux enfants, on les a toujours, là, les deux enfants dans cette relation, excepté qu'au moment de la séparation, madame faisait 30 000, j'en faisais 40, donc j'avance des chiffres comme ça, là,
ouais.
Pour pouvoir vous situer dans le temps. Pension alimentaire, bien que garde partagée 50-50, pension alimentaire puisque je gagne un plus gros salaire. Or, avec les années, finalement, mon salaire s'est vu tripler. Et année après année, en fait, j'ai dû quand même assumer une inflation au niveau de la pension alimentaire.
Mm-hmm.
Or, ma question là, est fort simple. Au niveau que les lois, je les trouve archaïques à ce niveau-là, puisque au moment de déterminer les pensions alimentaires, c'est basé sur le revenu familial pour ne pas segmenter, si on veut, papa en offre plus que maman.
Ouais.
Mais pourquoi devenir donc responsable de l'ambition qu'on peut avoir finalement de gagner un plus haut salaire?
Ouais.
Et du propre aveu de la mère, ça a déjà été dit comme quoi que, écoute, moi, de mon cas, de gagner un plus gros salaire, que ce soit des augmentations de 5%, j'en reviendrai finalement perdante parce que ce salaire-là est imposé versus la pension finalement qui n'est pas imposée.
Tout à fait.
Donc à quoi bon gagner plus haut salaire si de toute façon mon augmentation, je l'obtiens par ton ambition, toi de ton côté, de gagner un meilleur salaire.
Ah ouais. Et c'est tellement mal fait, je suis tellement d'accord avec vous, Martin, que normalement, il y a en ce moment des gens qui réfléchissent à une réforme du Code de la famille puis de toutes ces lois, entre autres, n'est-ce pas, M.
Oui,
Chabot?
Oui,
puis on a bien hâte de les entendre là-dessus. Il y a M. Alain Roy, entre autres, qui est là-dessus, qui est un des commissaires. Il y a eu une commission qui s'est promenée, on vous en a parlé d'ailleurs régulièrement. Il y a M. Schirmer, Sylvie Schirmer, qui vient régulièrement à notre émission, qui également est là-dessus. Mais pour répondre à Martin, qui dans le fond, en fait, c'est comme un...
Ben, en fait,
il a raison, là,
ben,
mais
a
là,
raison,
lui,
mais
lui ça le frustre, puis en même temps... Bon.
Oui, mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est que, dès le départ, la pension alimentaire était de quelques dollars. Là, okay? Donc, une garde partagée avec un salaire à 30 000, un salaire à 40 000, c'est pas les salaires qu'on vient partager. Hein. Donc, c'est un budget familial qui est redistribué en fonction des capacités financières des parents. Et est-ce qu'on peut croire que les enfants ont augmenté leur qualité de vie, leur rythme de vie depuis que papa ne fait plus 40 000, mais en fait 120 000 parce qu'il dit y avoir triplé son
salaire?
Êtes-vous
là, Martin?
Donc, il y a quand même un certain enjeu là-dedans, à savoir le maintien du rythme de vie. Ben, les enfants, ils devraient avoir une qualité de vie similaire chez papa, chez maman.
Est-ce que, donc...
Là, je comprends que chacun doit travailler aussi à la hauteur de ses capacités. Et je suis persuadé aussi que même si Martin, sa pension alimentaire a augmenté, si on calcule brut versus le net qu'il gagne versus ce qu'il transfère comme pension alimentaire, il y a quand même avantage à continuer à travailler là. Donc il y a quand même un gain strictement pour lui de son côté. Moi j'ai toujours
sa frustration, c'est que son ex n'a pas besoin de se forcer.
Mais ce qu'il faut penser, c'est que l'argent est échangé pour les enfants, Martin. Puis je vous encourage à continuer à voir ça de cette façon-là. Ça va pour leur bénéfice.
Mais Martin,
puis
justement,
vous,
c'était
vous
ça.
Vous continuez à monter dans l'échelle salariale.
C'était ça
bon.
Ma question, Martin. Est-ce que vos enfants ont bénéficié de votre augmentation salariale?
Oui, d'une certaine part, entre autres avec l'éducation au collège privé. Okay. Mais le point que j'aimerais adresser, c'est qu'en fait, c'est toujours le revenu familial qui est évalué. Or, les lois ont été basées principalement lorsqu'on en revient à bien des années où la mère était au foyer et que l'homme travaillait. Donc, je comprends toute cette question-là que femme au foyer, donc l'homme a été responsable, si on veut, en quelque partie, de limiter la mère à une carrière future. Or, la situation est que lorsqu'on gagne, exemple, un 30 000, encore au Québec, c'est assez populaire, mais c'est assez répandu que la femme gagne moins que l'homme. Et si une nouvelle relation est établie, ce qui est le cas, avec un homme qui gagne un salaire plus élevé que le mien, je suis tout à fait conscient, finalement, que l'homme n'est pas responsable de mes enfants, mais or, la situation n'est pas claire à ce point que est-ce que les enfants bénéficient moins, finalement, de cette relation-là versus chez papa qui, lui, de son côté, doit payer plus.
Mm-hmm. C'est intéressant, ça.
Ah oui,
et c'est votre cas, là, votre ex est en couple avec quelqu'un qui fait beaucoup d'argent aussi, puis donc, c'est ça que vous dites, on ne considère pas le conjoint.
Donc, c'est ce que moi, je considère, c'est que est-ce que la qualité de vie est meilleure chez papa que chez maman? Et est-ce que la pension a réellement une influence dans cette équation? Moi, je vous dirais que non.
Oui.
Mais par contre, c'est frustrant parce qu'il faut que je le paye. Puis c'est je ne peux pas le déclarer aux impôts parce que moi, je suis imposé sur mon salaire net.
C'est ça, c'est ça. Écoutez, il y a toujours des gens, puis ça, vous en trouverez tout le temps, des gens qui vont dire à peu près 10 % des gens qui, de toute façon, abusent de quelque situation que ce soit n'importe quoi. Toujours des gens. Il y a des gens qui fraudent l'impôt, 10 % des gens qui ne payent pas si. Il y a 10 % des conjoints-conjointes qui vont essayer de pomper le cash de l'autre. C'est toujours à peu près ça. Hein? La règle du 10 %
il y a toujours 10-15 %. Quelque chose comme ça. Oui.
C'est sûr que ça écœure, puis c'est vrai qu'il y en a des histoires. Puis c'est drôle, on en connaît tous des histoires de. Il s'est mis sur l'aide sociale pour ne pas payer sa pension, ou vice-versa. Elle, il a demandé trop, puis elle estimait qu'elle n'avait pas besoin de travailler. Puis que, bon, bref, il y a toutes sortes d'histoires. Évidemment, on a envie de dire en conclusion, Jean-François Chabot, aimez vos enfants si vous en avez dans une relation, puis que vous vous séparez. Pensez d'abord à leurs besoins à eux.
Pensez d'abord à vos enfants. Réglez vos affaires. Respectez vos ententes, les ententes que vous avez prises. Réglez les comptes quand ils arrivent. Réglez les anicroches quand ça se présente, donc les problèmes dans la garde, dans les échanges, etc. Réglez ça dès maintenant. Et puis, il y a des outils qui peuvent vous aider aussi, des outils en ligne pour planifier tout ça. Donc, il y a planiclick.com, entre autres, qui permet de gérer les budgets puis gérer la garde des enfants.
C'est quoi le
Planiclick,
site?
Planiclick.
Planiclick, c'est ça?
Oui, okay. C'est ça. Donc, il vous permet de gérer tout ça.
On sait aussi qu'en disant ça, on est conscient que les gens ne parlent pas d'argent quand ils se rencontrent. C'est comme l'affaire plate à parler.
Oui, c'est toujours éviter la question d'argent. Hein? Ouais. Mais à un moment donné, il faut l'adresser, cette question-là. Il faut en parler parce que sinon, ça grenouille, ça nous empêche d'avancer. Tout ce qui traîne se salit encore une fois. Donc, la plupart des gens qui fonctionnent bien, honnêtement, dans mon bureau, viennent me voir quasiment à tous les ans. C'est-à-dire, on vient régler nos comptes. On vient balancer nos affaires pour partir sur une nouvelle ardoise, laver l'ardoise, et puis on avance avec ça. Donc ça, c'est une bonne façon de fonctionner, de régler nos
choses. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. On reviendra, bien sûr, au fil des semaines et des mois sur ce sujet-là. Je sais que vous êtes nombreux là, à être en conjoint de fait. Vous avez beaucoup, beaucoup de questions. Puis si on peut vous aider là, à clarifier vos affaires avec l'aide de Maître Chabot, on ne va pas y manquer. Merci beaucoup, Jean-François.
Merci, Isabelle.
On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je reçois notre chroniqueur techno, Pascal Forget. On va parler des fameuses fonctionnalités de votre téléphone cellulaire. Vous avez sans doute reçu, comme moi, plein de mises à jour. On nous en demande souvent, puis on ne sait pas trop comment les faire. On doit-tu les faire ou pas les faire? À tout de suite.